Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la musique.
Ce soir, Mario Drou et Emmanuel Giuliani se font face à notre affiche, grande affiche. Hein. Retour sur le Festival d'Aix-en-Provence, nous évoquerons le triomphe du temps et de la désillusion de Handel, mais aussi le Così fan tutte de Mozart, également présent à Salzbourg, dont nous parlerons également, présenté également à Salzbourg, l'ange exterminateur de Thomas Hadès. Nous évoquerons aussi le CD, nouveau CD d'un Netrebko intitulé Verismo. Au cours de cette émission, vers 21h20, Lucine Como nous invitera à débattre autour d'une question liée à l'actualité culturelle dans le petit salon. Des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Rodeo, un film de Gabriel Mascaro sorti hier sur les écrans. Une émission au parfum d'été pour s'accorder d'abord techniquement. Nous sommes toujours dans l'été, puis la température est de ce côté-là aussi. Nous allons revenir sur deux des grands festivals lyriques estivaux, en commençant par le festival d'Aix-en-Provence, qui a proposé 5 productions cet été. On va commencer sans plus attendre par le triomphe du temps et de la désillusion de Handel, dirigé par Emmanuel Haye, mise en scène par Christophe Warlikowski. Handel qui compose cet oratorio en 1707, qui va d'ailleurs réutiliser par la suite dans plusieurs partitions d'autres œuvres. 4 personnages allégoriques, le temps, la désillusion, la beauté et le plaisir, qui se livrent un combat, qui sortira vainqueur, réponse à la fin de l'oratorio, composé pour Rome, sur un texte du cardinal Benedetto Pamphili, car l'édit papal, rappelons-le, interdisait alors les représentations d'opéra à Rome. Pour autant, Warlikowski le met en scène, on va en parler, on va écouter un extrait, alors de moins de 3 minutes, obligation contractuelle oblige, alors qu'il est visible, je le dis déjà, en intégralité sur Culture Box, cet opéra. Donc le début de Un pensiero nemico de pace par Sabine Devielle.
Oh, no!
Nous n'aurons pas la reprise du thème, obligation contractuelle oblige, mais pourtant ça repart, vous pouvez voir ça en entier. Son et images sur Culture Box, quelques mots, on a quatre opéras et un disque à l'affiche, quelques mots sur cette production. Emmanuel Giuliani, je commence avec vous.
C'est et de loin ce que j'ai le plus aimé à Aix. Dans le festival de cette année, tout en posant la question au départ de l'intérêt, de la pertinence de mettre en scène justement un oratorio, même si on vient de le voir dans cet extrait, il y a une vocalité très 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 dramatique et qui incite à l'action aussi bien dans les passages très vifs, très rapides et très virtuoses que dans les plages plus élégiaques. Une fois qu'on a admis ça, puis de toute façon on est au festival, on vous propose un spectacle, donc voilà, on ouvre les yeux et les oreilles. J'ai trouvé que c'était un point de vue qui se tenait très bien et qui nous tenait, nous spectateurs, vraiment en haleine et en émotion, ce qui est un défi, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, ce sont des personnages, enfin des personnages, non, justement pas, ce sont des allégories, et le très grand mérite de cette production, aussi bien du côté fausse que du côté soliste, que du côté mise en scène, me semblait-il, dans une très grande cohérence, c'est justement de donner vie et chair, sans jamais trahir la musique, donner une intensité psychologique et qui n'est pas, qui ne cherche pas midi à 14h, qui paraît très évidente, alors qu'évidemment, nous sommes avec Christophe Arlikowski, donc on n'est pas du tout dans un environnement romain de l'époque, mais vraiment, on adhère pas personnellement, alors que je ne suis pas une Varlikovskienne inconditionnelle.
Ça, on l'avait remarqué.
Voilà, là, je me suis tout à fait laissée séduire, parce que, encore une fois, la musique n'est jamais sacrifiée. Il y a une réelle épaisseur psychologique, un réel crescendo dans l'investissement que la musique fait des personnages et réciproquement. Et les tics de Varlikovski, à savoir, il faudrait qu'il se renseigne, il y a du mascara waterproof, c'est pas la peine. Mais on a toujours
ça ne donne pas les mêmes images.
Ça ne donne pas les mêmes images. La vidéo, les nuisettes, l'usage de la drogue.
Les lavabos.
Voilà. On retrouve tout ça. Donc on peut se dire
qu'on peut en vouloir
encore
un artiste de voilà. se connaître le même sillon.
Alors voilà, quand le même sillon, après on peut se dire encore ou youpi encore ou encore. Voilà, c'est évidemment toujours une question de point de vue. Là, personnellement, j'ai trouvé que ça s'inscrivait très bien. Puisque on n'attend pas, on n'a pas de référence scénique en tous les cas pour cette œuvre, donc on est peut-être plus réceptif et plus ouvert à ce qu'il y ait une proposition très éloignée à partir du moment où elle a une grande cohérence.
Marie-Andrew, vous avez été sensible à la mise en scène.
Moi, j'étais sensible à la cohérence. Par contre, heureusement pour moi, qu'il y avait la dernière image que j'ai trouvée absolument sublime, cette Sabine de Vielle complètement défaite. Comme ça, goutte à goutte, enfin, cette espèce de délitement du personnage dans cette espèce d'aura christique d'une mariée abandonnée. Je trouve ça très, très beau. Donc, c'est beauté, hein, beauté qui était alliée avec plaisir et contre le temps et la désillusion. Évidemment, t'as eu des illusions et on gagnait la partie, c'est normal.
Et plaisir
la laisser tomber. Et donc, beauté se fane et beauté meurt, hein. C'est donc l'humaine condition, on dirait. Mais, en l'occurrence, moi, les tics Varlikovskiens, et je suis plutôt une Varlikovskienne habituellement. Voilà, comme quoi, le chiasme est presque que parfait. Là, pour le coup, j'ai un peu accumulé des agacements, je dirais. Et ce dernier tableau m'a complètement... ça a été la reddition pour moi, que ce dernier tableau où vraiment les larmes sont montées aux yeux et j'ai eu cette espèce de frisson. Mais je dois dire quand même que le plexiglas, les filles mal attifées qui viennent plus ou moins tourner cette espèce de vieille beauté qui se prostituent, faut bien dire les choses. Cet éphèbe qui est sacrifié, mais bon, avec ses dandinements un petit peu, boîte de nuit un peu branchouille, tout ça, ce côté-là m'a un petit peu agacé, je dois dire, y compris aussi ce dont vous parliez tout à l'heure, Emmanuel, la drogue, enfin tous les accessoires, je dirais, de la déchéance entre guillemets de ce petit peuple du plaisir que Varlikovski évidemment dont il est à la fois un émule et un dénonciateur, on pourra dire. Mais je trouve que, pour moi, il y avait quelque chose... Alors oui, effectivement, on n'a pas de référent, mais je sais pas, le propos philosophique, pour moi, demandait quelque chose peut-être d'un petit peu moins agité, j'ai envie de dire. Il y avait beaucoup de trémoussements, il y avait beaucoup de contorsions, il y avait beaucoup de passages dans ces deux salles de cinéma qui se faisaient face. Enfin, on savait pas ce que c'était, d'ailleurs, hôpital.
Une boîte de nuit au milieu.
Voilà, boîte de nuit au milieu. Bon, ce dispositif-là, moi, m'a pas convaincu au départ. Et encore une fois, c'est vraiment la toute fin où là, je me suis dit, là, oui, effectivement, ce bonhomme, c'est un grand bonhomme. Ouais. Mais j'aurais aimé que les choses soient peut-être un petit peu plus comment dirais-je, épuré pour arriver à cette chose-là. Et j'ai envie de dire, bon, il avait quand même un plateau vocal
extraordinaire.
Et ça sauve certainement beaucoup, beaucoup les choses aussi.
Mais certains, extraordinaire vocalement, mais aussi scéniquement, parce qu'on a vraiment des vrais acteurs, interprètes sur le plateau. Moi, j'avoue que j'ai été... Les dernières productions lyriques de Varikovsky, j'ai eu beaucoup de réserves. Celle-ci m'a complètement emporté de la première à la dernière seconde. C'est effectivement cette incarnation d'idées. C'est quand même un tour de force qu'il a réussi. Mais alors, venons-en à la partie musicale. On parle du plateau, mais moi, Emmanuel Haïm, j'ai jamais entendu à ce niveau-là.
Extraordinaire.
De direction, un travail. Extraordinaire. Enfin, j'en ai encore la chair de poule d'en parler ce soir, Marion Drou.
Oui, Emmanuel Haïm, elle est là dans un élément qui lui convient parfaitement. Elle a donné à son orchestre cette couleur sensuelle, en même temps avec cette façon de retenir parfois le son.
Avec des effets sonores.
Des effets sonores,
voilà. De studio. Enfin, il y avait vraiment, physiquement, c'était presque incompréhensible.
Et c'était même étonnant parce que c'était quand même du plein air, précisons-le.
Dans
cette fosse de l'archevêché qui ressemble à un bateau, voilà. Et qui est pas facile pour la cohésion et pour le sentiment ensemble. Et là, effectivement, Emmanuel Haïm, elle est vraiment, c'est une seconde peau pour Hans Händel. On sent qu'elle est, et son orchestre pareil, donc c'est quel écrin pour les chanteurs. Et avec le plateau qu'on avait, évidemment, là, c'était que du bonheur.
Emmanuel Jalini, sur ce point, point du
absolument.
Vocal.
Absolument. Et ce qui était très remarquable, c'est qu'elle arrivait à donner beaucoup de poésie, de liens et de legato au moment très, très swingant, très, très dansant, voire un peu percutant, et à donner du nerf et pas du tout d'amollissement au grand passage, beaucoup plus lent, élégiaque, etc. Et donc, il y avait le risque, évidemment, dans toutes ces œuvres de Händel, c'est qu'on enfile, si vous me permettez le terme, des déserts tous plus beaux les uns que les autres, mais un air lent, un air rapide, etc. Et là, mais je pense aussi grâce à la proposition scénique,
c'est un ensemble.
On avait véritablement l'impression que tout était dans tout, et donc on ne s'ennuyait pas une seconde.
Oui, de la première dernière seconde, elle tient magnifiquement.
Et il y a eu, il me semble, une apothéose de cela dans le quatuor, très beau quatuor, que Varlikovski a eu l'idée, moi je trouve géniale et fulgurante, de faire un repas de famille où tout le monde est à table, se lève, se rassied, s'engueule, etc. Et ce quatuor, musicalement, scéniquement, et après on va aller, comme vous le dites, Marie Audroux, vers cette espèce de dépouillement jusqu'à la mort et la beauté qui se noie dans les larmes et dans le sang. Et vraiment, là, il y a eu un moment... incroyable.
Moment à découvrir ou à revoir, à écouter sur Culture Box, puisque cette production du Triomphe du Temps et de la Désillusion de Händel est visible sur la plateforme numérique de France Télévisions, ce qui est une bonne chose. Mais j'avance et je passe du côté de Salzbourg pour évoquer à présent, dire quelques mots de L'Ange Exterminateur de Thomas Hadès, d'après le film de Louis Bunuel. On commence, comme ça vous retrouvez toutes vos notes, par un extrait de cette production.
Thank you.
syndicalement oblige l'interruption de cet extrait de l'Ange exterminateur. Point de vue, là, peut-être plus synthétique, d'autant que même si c'est du contemporain, et on va en parler dans le petit salon, c'est déjà du passé. Marie Audroux, je commence avec vous.
Alors... Bon, quoi dire? Non, j'ai envie de dire que moi, j'étais depuis The Tempest du même Thomas Hades en 2004. Thomas Hades est devenu mon dieu de l'opéra contemporain, parce que je suis très versatile. Et là, en l'occurrence, j'ai été un petit peu déçue, parce que j'ai retrouvé des choses que j'aime bien, c'est-à-dire ce mélange des styles, ce côté très décomplexé par rapport à la musique contemporaine, où on fait du contemporain, mais en même temps, c'est quand même audible par l'auditeur moyen, on va dire. Et en l'occurrence, je présume, c'est ce qui faisait qu'il faisait donc l'ouverture quand même de cette création à Salzbourg, ce qui n'est pas rien. Ça, je crois qu'il a 98% de remplissage au cours des représentations, donc c'est pas si mal. C'est même très très bien. Je crois qu'ils sont rentrés dans leurs frais, j'imagine. En tout cas, toujours est-il que voilà, le film de Buñuel, alors ça remonte par contre à très très loin, je l'avais vu, mais bon, on sait que c'est quelque chose de très très fort, c'est ce côté surréaliste et complètement déjanté de Buñuel. Bon, j'ai eu l'impression que la musique était en deçà du propos, que on retrouvait des formules que chez Shakespeare j'avais trouvé géniales, et là effectivement je les trouvais plus plates. Et du coup, j'ai l'impression que là, c'était pas complètement terminé, qu'il y avait quelque chose d'un petit peu ouvert, d'un peu lâche encore, comme un peu les mailles, vous voyez, d'un filet pas fini de tresser. Et finalement, voilà. Donc j'ai envie de dire que il faudrait qu'il retravaille un petit peu. Peut-être aussi que c'était la première, donc c'est toujours pareil, hein, une création, il y a quand même 12 solistes sur scène, c'est pas rien. Par contre, le cast était formidable, il a vraiment trouvé les chanteurs adéquats. Bon voilà, donc je m'aperçois en parlant que j'ai pas tant de choses que ça à dire sur cette œuvre.
Petite déception alors, oui, petite déception, concernant voilà. votre idole. Pour vous, Emmanuel Giuliani,
comme Marie-Aude, moi je suis une fan absolue de La Tempête, donc donc je me disais youpi youpi, un Thomas Hades, et un peu la même impression visuellement, mise en scène de Tom Kearns extrêmement élégante, très beau décor, costume superbe. Moi, j'ai eu un très gros problème, d'abord, parce que quand on est face à un opéra, on est face à de la musique, mais du théâtre aussi, c'est que j'avais, en tous les cas, dans, disons, les premières demi-heures, énormément de mal à identifier les personnages, notamment les personnages masculins, parce qu'arrive tout un groupe, c'est le propre même de l'action, et inspiré, comme vous l'avez dit, de manière très proche du film de Buñuel, mais arrive tout un groupe de mondains, tous les hommes sont en smoking. Et pour différencier, alors j'ai peut-être pas l'oreille assez fine pour immédiatement repérer qui est qui à cause du timbre, de la voix et de la ligne vocale, mais je me disais, alors lui c'est qui? Et quand
on se dit,
il me faudrait un papier et un crayon pour dire lui c'est lui machin, c'est déjà un énorme problème. Mmh. Je trouve que le spectateur n'est pas du tout accueilli par l'œuvre. Ouais. Et c'est quand même embêtant. Alors, après, on a du plaisir sonore, plus à l'orchestre que vocalement, si ce n'est un sublime solo de mezzo-soprano incarné par Christine Rice, qui joue Blanca Delgado et qui a un moment absolument magnifique. Un très très beau duo qui semble sorti d'un opéra de Britten, un duo d'amour vers la fin du mot, d'amour et de mort, qui est une pure merveille. Autrement, c'est vrai que c'est plutôt... En tous les cas, en ce qui me concerne, l'orchestre qui m'a saisi, parfois même un peu de manière tonitruante. C'est le compositeur qui dirigeait. Et c'est vrai qu'on a des déferlements sonores où le plaisir devient parfois un peu une souffrance, comme dirait François Truffaut. Donc, voilà. Et puis, peut-être faudrait-il le revoir. On va en parler quant à la pérennité des œuvres. Mais là, c'est une œuvre qui, pour la première, en tous les cas, je trouve, ne s'offre pas de manière très limpide aux spectateurs à cause de ce côté choral qui est très compliqué.
Mais bon, ça a été quand même... les gens étaient debout.
Les gens étaient debout à la fin du spectacle. Voilà, je pense qu'ils étaient totalement sincères.
Pas seulement pour se déglouder les jambes, vous voulez dire.
Non, parce que c'est pas très long, parce que c'est spectaculaire, parce que visuellement c'est beau, c'est plutôt bien chanté. On ne s'ennuie pas.
Parce qu'il y a des suicides, parce qu'il y a un quasi-meurtre, parce qu'il se passe des choses. Parce qu'il y a du sexe, il y a tout ce qu'il faut.
Oui, des très beaux costumes, des
poids
qui
montent
très haut, qui descendent très bas.
Ça sauve beaucoup de choses, dans la vie aussi, d'ailleurs, Hubon.
Reverra-t-on cet ange exterminateur de Thomas Hades? C'est une question qu'on va se poser dans quelques instants.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de deux productions de Così fan tutte et de Mozart, l'une présentée à Aix, l'autre à Salzbourg. Nous parlerons aussi du nouveau disque d'Anna Netrebko. Mais enfin, avant tout cela, il faut tout de suite suivre Lucille Como dans son petit salon. Bonsoir, cher Lucille. Je crois qu'on a un tout petit peu défloré le sujet de votre petit salon.
Bonsoir,
ce soir.
Bonsoir, non, c'est pas grave.
C'est fait pour.
J'ai peur de rien. Au cours du mois de juillet, on apprenait que des deux créations contemporaines que programmait le Festival d'Aix-en-Provence, une seule allait finalement avoir lieu, l'autre faisant les frais de coupe budgétaire. Exit donc l'opéra d'Adamek, cette pierre de la tour de Babel, alors que c'était une toute petite forme avec peu d'interprètes et un budget minuscule comparé aux grosses productions du festival. Forcé de constater que les opéras contemporains ne sont pas légion dans les programmations des festivals et des grandes salles, et en dehors de certains connus, comme ceux de Philippe Boismans, je pense à Julie par exemple, peu sont gravés ou repris après leur création, ce qui les cantonne à un statut éphémère de performance, pourquoi pas. Alors pourquoi ? Déjà, on peut faire l'hypothèse qu'il y a peu d'opéras contemporains, que la grande forme lyrique n'intéresse plus les compositeurs. Du Tilleux, par exemple, pour en citer un grand compositeur du XXe siècle, a toujours repoussé l'échéance et n'a finalement pas écrit d'opéra. Pour de nombreux mélomanes, le dernier grand opéra est Loulou, quand ce n'est pas Péléas et Mélisande. De nombreux compositeurs répugnent encore à une forme étiquetée bourgeoise, réputée incompatible avec la modernité, la recherche d'un nouveau son, un gros machin traditionnel qui au fond aurait été remplacé il y a belle lurette dans la case spectacle total par le cinéma. Pourtant, depuis une trentaine d'années, on observe un retour en grâce avec des compositeurs donc comme le britannique Thomas Hades, le français Philippe Fénelon ou le tout jeune américain Nico Muhly par exemple, dont l'opéra Two Boys créé au Metropolitan en 2013 avait été très remarqué, notamment parce qu'il renouait justement avec les principes du grand opéra populaire, intrigue amoureuse, richesse instrumentale dans la fosse, force cœur et mise en scène spectaculaire. L'opéra d'aujourd'hui existe, alors pourquoi n'est-il pas joué davantage ? Parce que les programmateurs sont frileux déjà. Un opéra est un investissement considérable, il faut pouvoir rentabiliser les productions et donc attirer le plus de public possible. Pas facile de remplir l'opéra Bastille avec une affiche inconnue du public traditionnel de l'opéra qui n'est pas, comme on le sait, le plus friand de chamboulements esthétiques. Lorsque Bruno Mantovani a créé son opéra Armatova en 2011 à Paris, les critiques étaient mitigées sur la qualité de l'œuvre, mais tous ont globalement émis les mêmes réserves sur les capacités de l'opéra à remplir le gros vaisseau qu'est l'opéra Bastille. Autre obstacle possible, les chanteurs, qui sont souvent très réticents devant le répertoire contemporain, un répertoire difficile, risqué et parfois pas très tendre avec la technique vocale. Dans un entretien au Guardian il y a quelques jours, la soprano roumaine Angela Georgiou se plaignait de ce que les compositeurs d'aujourd'hui ne savent pas écrire pour la voix et à la question « Quel est votre opéra contemporain préféré ?» a répondu « Marius et Fanny de Vladimir Kosma
». Toujours le génie des interviews, j'étais la grande view. Marie Audreau, alors c'est vrai que ce sont des thématiques qu'on a abordées au fil des saisons dans cette émission, mais la question se pose toujours.
Alors je dirais la question d'argent, oui, c'est vrai. Ouais. C'est, voilà, la question du public, oui, quoique, et j'ai envie de dire.
C'est-à-dire
un public, bah, ça va chercher un public, ça s'éduque entre guillemets au bon sens du terme. Ça, voilà, un public, c'est pas immuable, hein, j'ai envie de dire. Frilosité des programmateurs, bah, avec le système des coproductions maintenant, oui et non, parce que certains frileux se retrouvent quand même embarqués dans des galères peut-être coproductives dans lesquelles ils se seraient peut-être pas embarqués tout seuls, j'ai envie de dire. Et puis, bon, alors après les interprètes. Alors, Angela Georgiou, tout le monde sait que ce n'est pas la grande prêtresse de l'opéra contemporain. C'est même quelqu'un plutôt réputé très conservateur, donc qu'elle puisse avoir ce genre d'assertion, c'est pas du tout étonnant, mais du coup, ça décrédibilise le propos dans la mesure où des tas de chanteurs, de jeunes chanteurs, sont prêts à aborder des rôles d'opéra contemporain pour peu, effectivement, qu'ils y trouvent matière à incarner vraiment un personnage, qu'ils ne bousillent pas leur voix, mais de toute façon, de tout temps, les nouvelles écritures vocales ont généré ce type de critique. Hein. Chaque compositeur a été réputé inchantable par les chanteurs de son époque. Donc, de toute façon, on ne peut pas tergiverser là-dessus. On peut tergiverser là-dessus très longtemps. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire au final. Après, que le genre, effectivement, connaît un très, très grand regain, parce que c'est un genre populaire, l'opéra. C'est ce que disait d'ailleurs très bien Christophe Honoré. Ben, y a tout. La musique vous dit quoi penser, quoi sentir, la plupart du temps, en tout cas. Et voilà, il y a de l'image, il y a une histoire, il y a des personnages. Et je crois quand même que effectivement, l'opéra est un genre qui perdure et qui perdurera, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie de dire.
Peut-être deux ou trois ajouts à ces propositions que je soumets à Emmanuel Giuliani, en commençant par une qui est à la fois, on va dire, économique, surtout économique, c'est le problème de la world premiere. Qui a la création mondiale ? Parce que si on fait coproduction, on veut être celui qui, sur le programme, aura marqué création mondiale et pas être le deuxième ou le troisième qui pourra pas le marquer.
Et
qui aura la presse chez lui, et ce sera pas le cas pour la suite. Il y a aussi cette problématique-là, qui se pose d'ailleurs pour le théâtre, mais dans une moindre mesure économiquement. Il faut avoir la première mondiale, ou alors première en France. Par défaut, il y a quand même cette question-là aussi.
C'est le problème de toutes les alliances, et qu'on aime être égaux, mais chacun voudrait être un petit peu plus égal que l'autre, oui. Et puis, on a un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire, c'est vrai que si on aime aussi les Noces de Figaro, les opéras de Wagner, Wozzeck et Saint-François des Six de Messiaen, c'est parce qu'on les a entendus à plusieurs reprises, c'est parce que le tri s'est fait. Combien d'opéras contemporains au XVIIe, au XVIIIe, etc., à leur époque, sont complètement tombés dans les oubliettes, on en réexhume certains. Certains, on se dit, ça vaut la peine. D'autres, on se dit, on les réexhume une fois et après, on ne les écoutera plus. Donc, chaque époque a aussi énormément trié.
Mais peut-être moins d'émulation aujourd'hui, quand même.
Oui,
quand
et puis les enjeux économiques ne sont pas... Le genre fait moins rêver. Et puis surtout, le répertoire ancien est tellement important et redonné que l'écoute de la plupart d'entre nous est formatée. Après, les goûts personnels, évidemment, vous orientent plutôt vers le grand opéra à la française du 19e ou vers l'opéra baroque. Mais en tous les cas, on est formaté par toute une écoute passée qui nous fait accueillir peut-être plus facilement justement la musique d'un Thomas Hades. Bon, c'est quelqu'un comme Simon Kinleyside qui interprétait Prospero de la tempête. Dieu sait que c'est un immense chanteur pour un immense rôle et qui s'est terriblement investi. Et là, on était, ça participait beaucoup du succès de cette œuvre. Donc,
sur le 21e siècle, Tempest, Written on Skin, on ne va pas en compter si on arrive au doigt d'une main.
Il y a les doucements quand même aussi.
Oui,
certains
trois sœurs, quand même.
Certains du sapin, peut-être.
Kaya Sarriao aussi, quand même.
Kaya Sarriao, l'amour de loin. Va reprendre l'amour de loin, par exemple.
Ça fait une dizaine d'années, l'amour de loin.
Mais non, oui, bien sûr, mais c'est bon. Parce que le contemporain s'arrête à.
Non, je disais au 21e siècle, pour prendre une frontière temporelle facile et relativement proche. Mais je parlais d'émulation. C'est vrai qu'au 17, 18, 19e, les compositeurs se tiraient la bourre pour écrire le plus bel opéra, celui qui avait le plus de monde.
C'est des princes, là, aujourd'hui, l'argent ne vient pas du même endroit, enfin, voilà, c'est...
Et puis, on reprenait dans un opéra pour en nourrir un autre, on vient de le dire pour Handel. Il y avait un rapport à la création très différent. Peut-être aussi, l'opéra est très investi maintenant, et ce qui lui attire une partie de public, d'ailleurs, qui avant le regardait avec dédain, parce que des chorégraphes, des metteurs en scène venus du théâtre ou du cinéma, etc., s'y intéressent, donc on se dit, ah, ben, c'est pas si ringard que ça, puisque, justement, Varlikovski, etc., et d'autres s'y intéressent. Moi-même, qui suis un tenant d'une culture non passéiste, je peux m'y intéresser, j'aurais pas honte. Donc, il faudrait peut-être réfléchir, en effet, à comment, via les autres composantes non musicales, non pas dire que la musique n'est pas importante, mais en tous les cas, que les autres composantes non musicales de l'opéra contemporain peuvent aussi le tirer vers un intérêt plus public. C'est peut-être ça se fait, c'est pas... Mais... Et puis alors, il y a cette question de la petite forme. Vous l'avez dit, en effet, c'est une petite forme qui a été sacrifiée à Aix, alors qu'on présente la petite forme. Là, par exemple, il va y avoir au festival d'automne, Ramon Lascano va présenter certains extraits, peut-être, de son Ravel d'après le roman de Schnauz, pour quatre chanteurs et un petit ensemble orchestral. Les petites formes ont peut-être plus de facilité, en tous les cas économiquement, à se monter, à tourner après, dans différents lieux. Ça peut être une solution. Si on ne dit pas, on fait de la petite forme parce qu'on ne peut pas en faire de la grande.
À propos de ça, je me posais aussi la question du terme de théâtre musical, qui est quelque chose qui revient. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai vu quelque chose qui se présentait comme du théâtre musical, qui était Giordano Bruno de Francesco Fidlei. En quoi c'est pas...
C'était un opéra.
C'est un opéra, oui, tout à fait. Alors pourquoi on ne revendique pas le terme générique d'opéra et plutôt le terme de théâtre musical?
Parce que c'est vrai qu'il a mauvaise presse, le nom d'opéra. C'est vrai qu'il est encore entaché, comme vous le disiez tout à l'heure, de cette espèce de dédain pour un art qui serait bourgeois, alors que c'est un art qui est né, qui est un art royal, c'est un art qui est né avec les rois, qui n'est pas né avec la bourgeoisie. Mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup répandu avec la bourgeoisie dans le public, on va dire. Mais en l'occurrence, moi j'ai envie de dire que que c'est vrai que parfois les frontières sont un petit peu ténues, que le théâtre rentre pour une part importante parce que on a l'impression que voilà, que ça va peut-être aider la musique, mais bon, en l'occurrence, je pense que ce sont des fausses questions. Ça, c'est un habillage, je dirais. Au bout du compte, il y a un opéra où il y a du théâtre musical et il y a quelque chose qui marche ou quelque chose qui marche pas.
Emmanuel Gianni, pour finir.
Après, il y a peut-être une réflexion à avoir aussi sur la voix et sur ce que peuvent faire les chanteurs et ce que veulent entendre les amateurs d'opéra. Et la voix est un instrument qu'on ne peut quand même pas pousser autant dans ses ultimes retranchements, ou alors on fait d'énormes dégâts et les chanteurs ne sont pas prêts à suivre et l'auditeur pas prêt à entendre, qu'un instrument. Et donc ça, c'est vrai que souvent, on a, en tous les cas pour les premières écoutes, et comme il y a peu de reprises, on ne peut pas s'y habituer et réfléchir et voilà et s'en imprégner à l'idée que le traitement de la voix bute quand même, a eu un immense âge d'or, a pu encore être remis à frais nouveaux, disons par Berg et sans doute au-delà, et puis après on bute quand même sur des contraintes physiques aussi bien, encore une fois, pour les cordes vocales que pour l'oreille qui l'écoute.
Il y a la question d'intelligibilité
du
aussi,
texte,
aussi. Évidemment, qui est primordial. Et le surtitrage à cet égard est quand même un énorme progrès. Ben, par exemple, même dans un opéra du répertoire, cet été à Orange, quand on a vu Butterfly, pour la première fois, il y avait un surtitrage. Et pour la première fois, des spectateurs ont réagi à certains... Alors que finalement, ils prenaient l'opéra dans sa totalité. Beaucoup ne connaissent pas en détail ce qui se dit au moment même où le chanteur le chante. Mais là, effectivement, il y a eu cette réaction du public et ça m'a frappée. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment d'important, même si bon, les détracteurs ou les puristes disent que le fait de lever les yeux ou de les baisser sur la scène, bon évidemment, mais bon, aujourd'hui nous sommes multifonctions, nous en avons dans tous les doigts, dans toutes les oreilles, donc je pense qu'on est capable de suivre un surtitrage en écoutant la musique.
Alors, avant de parler de deux cosy présentés cet été, l'un à Aix, l'autre à Salzbourg, nouveau disque pour Anna Netrebko, Verismo, dans lequel la soprano nous donne à entendre pour l'essentiel des airs de rôle qu'elle n'a jamais incarnés sur scène, exception faite pour Manon Lescaut. Verisme, le terme mériterait qu'on s'y arrête, simplement pour dire que c'est un fourre-tout qui est quand même ici bien pratique. On écoute un extrait de ce disque, un air de la Gioconda de Ponchielli.
Sultan,
Voilà pour cet extrait de Verismo, le nouvel album d'Anna Netrebko, paru chez Deutsche Grammophon. Un regard un peu général sur cet album, Emmanuel Giuliani.
C'est bien.
très bien, Mario Draud.
Mais
c'est très bien.
Parfait.
Mais
la
c'est
suite.
Accueilli, promu, alors comme bon. Jamais. Mais enfin, c'est Anna Netrebko, la grande soprano du moment, et très très bien accueilli. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu en deçà de tout le foin entre guillemets que l'on fait autour de ce disque. Même si le programme est très bien composé, c'est une bonne idée d'avoir en effet des airs peu souvent chantés et puis d'autres classiques qui sont même des tubes voire des si comme la Wally, et après d'avoir intégralement le quatrième acte de Manon Lescaut, qui est actuellement un des rôles qu'elle défend le plus souvent, qui lui permet aussi de faire entendre, et ma foi il est tout à fait bien, son époux et ténor dans le rôle de Desgrieux. Donc c'est un programme intelligemment fait, soutenu avec le professionnalisme qu'on lui connaît par Antonio Papano, que les chanteurs adorent, qui adorent les chanteurs et qui, voilà, c'est très bien leur composer un écrin. Entendre Anna Netrebko quand on ne la voit pas, ça fait à la fois ressortir les qualités, mais aussi les réels défauts qu'elle peut avoir, tant dans l'interprétation, je trouve même que dans la qualité vocale, qui disparaît sur scène parce qu'elle a une très très grande présence, et puis c'est Netrebko, donc voilà, elle, même dans les mauvaises productions où il n'y a pas de théâtre, elle réussit à être là et à imposer sa très grande intensité. Quand on ne fait que l'entendre, moi, je suis moins convaincue.
Marie Drou.
Moi, je suis désespérée pour la musique contemporaine quand j'entends ça, parce que...
C'est-à-dire ?
Non, parce que j'ai envie de dire, alors, c'est vrai que rationnellement, je partage une partie des réticences d'Emmanuel, mais je dois dire que moi, je me fais embarquer. Je me fais embarquer parce que elle a effectivement cette présence, moi, je la sens même au disque. Et je trouve que même les défauts, j'ai envie de dire, c'est voilà, ça me touche, ça me plaît. Et oui, l'opéra, c'est aussi ça pour moi de pouvoir être là avec un peu comme quand on se met en maillot de bain. Il y a un effet général et puis bon, il y a des défauts partout, mais finalement, cet effet général, moi, il me séduit.
Quelle image.
Non, mais bon, elle est bête, mon image,
non,
mais
elle
est parlante. C'est pour
bien,
ça que je l'ai choisie.
Absolument, vous l'avez bien fait.
Et je trouve qu'effectivement, cette chanteuse, elle a quand même quelque chose, une intelligence musicale redoutable, j'ai envie de dire. Effectivement, elle est en pleine possession de ses moyens, elle sait ce qu'elle peut faire, elle sait ce qu'elle ne peut pas faire, alors peut-être pas de la vie d'Emmanuel, mais moi je trouve que si, parce que même quand elle frise, à la limite parfois du mauvais goût, de la chose qui enfle un petit peu, ou de ses graves peut-être un peu trop poitrinées généreusement, je n'en sais rien, toujours est-il que c'est toujours quand même servi par une intelligence du propos, et moi ça j'admire, et je préfère finalement la chanteuse qui m'embarque dans une musique un peu malfamée, plutôt que des chanteuses dont je vais dire mon Dieu qu'est-ce que c'est beau, et puis au bout du compte il m'en restera pas tant que ça. Et moi Netrebko, pour ça j'aime bien ce côté gypsy, ce côté un peu folle dingue qu'elle a, et ça se sent dans la musique, et je trouve que là, et Papano quand même c'est plus qu'un accompagnateur, c'est vraiment un partenaire, c'est quelqu'un qui va justement dans ses délires, dans ses folies. Bon, alors peut-être si je dois bémoniser moi aussi je vais le faire, mais le rôle de Liu, peut-être quand même elle a plus la voix pour faire le rôle de Liu, elle a cette voix qui est beaucoup trop opulente, beaucoup trop riche, et bon, faire la petite fille quand on a des formes généreuses, évidemment ça, vocalement on entend, mais d'ailleurs effectivement la pochette en témoigne aussi sur plan plastique, voilà, donc non, moi j'ai envie de dire ce dit effectivement il est ça agace toujours quand un disque est promu de cette manière là parce qu'on sent que la maison de disque a mis tous les Warner et voilà, et nous sommes
tous les Sony plutôt,
nous sommes sollicités en tant que journaliste pour voir des machins, des trucs, des présentations, et on n'y va pas d'ailleurs, heureusement.
Vous allez quand c'est Bartoli, mais pas quand c'est Netrebko.
Ça dépend où c'est, voilà, c'est ça. Il faut que ce soit dans un endroit où on a envie d'aller. Et là, en l'occurrence...
Vous n'aviez pas envie.
Oui, non, pas du tout. Non, mais voilà, j'ai envie de dire, bon, voilà, c'est si les gens qui aiment l'opéra, ils vont aimer ce disque. Et ceux qui n'aiment pas l'opéra contemporain, ben, qui commencent par ça, peut-être qu'ils viendront l'opéra contemporain.
Bon, très bien, voilà deux avis tranchés sur Verismo d'Anna Netrebko, paru chez Deutsche Grammophon.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée, comme chaque jeudi soir, à la musique avec un jeu de comparaison entre deux productions de Così fan tutte et de Mozart, une mise en scène de Christophe Honoré dirigée par Louis Langrée et Jérémy Rohrer à Aix, et puis une mise en scène de Sven-Erik Bechtolf dirigée par Ottavio D'Antoni à Salzbourg. On commence par écouter un extrait de la production d'Aix-en-Provence. Obligation contractuelle oblige, on s'arrête avant 3 minutes, mais on n'a pas beaucoup plus pour en parler, non. C'est encore un petit peu de temps dans cette émission, mais on va évoquer celui de Salzbourg. Mais certes, on entendait cette ouverture de Così, on n'a pas entendu le plateau vocal forcément. Marie Audreau, quelques mots sur cette production signée à la mise en scène de Christophe Honoré.
Alors, Christophe Honoré, j'entretiens avec lui, c'est une fois oui, une fois non. Pour moi,
j'avais pas
aimé ses dialogues des Carmélites, j'avais beaucoup aimé son Péléas, et là je me disais de quel côté vais-je aller. Et en l'occurrence, alors peut-être me suis-je laissé un tout petit peu influencer par l'entretien que j'ai fait avec lui avant, et c'est vrai
c'est jamais
très bien pour critiquer après.
C'est vrai.
Cela dit, son parti pris, je le trouve, comment dirais-je, résumé. Oui,
ici.
Le parti pris. Alors ça se passe dans une colonie italienne dans les années 1920 sous Mussolini en Érythrée, où évidemment les Italiens ne veulent pas faire chanter les Noirs à l'opéra, mais disons, voilà, c'est ce contexte à la fois raciste, colonialiste, etc., dans lesquels donc nos couples d'amoureux sont, alors les filles sont des filles de colons, c'est pas les Ferrares qu'on connaît, et les deux hommes reviennent donc grimés en noir, évidemment, donc toute la problématique du blackface, hein, qui est important pour Honoré. Enfin, tout ça, évidemment, vous allez me dire, et Mozart là-dedans, et Da Ponte là-dedans, ça c'est
J'ai
vrai.
Encore rien dit.
On peut se poser la question. Toujours est-il que, au bout d'un certain temps, quand on a vu un certain nombre de Così pléthoriques dans sa vie, ce qui est mon cas, alors évidemment, tout le monde n'a pas cette chance, mais c'est vrai que la symétrie des deux sœurs, le côté napolitain, machin, c'est vrai qu'on se dit, bon, on aimerait bien voir autre chose dans Così. Alors, parfois, certains metteurs en scène nous donnent des choses à voir, notamment, on évoquait tout à l'heure, hors micro, notre ami
Michael
Haneke, qui a fait un Così absolument extraordinaire.
Qu'on n'a pas vu en France.
Voilà, qui pour moi, il est peut-être l'un des meilleurs Così, ou le meilleur Così que j'ai jamais vu de ma vie. Mmh. Et puis là, on a effectivement un parti pris très très fort, scéniquement. Donc ça se passe dans un fortin avec un peu délabré. Et les esclaves noirs et les colons sont mélangés. Bon, il y a Guglielmo qui viole une jeune négresse pendant qu'il est en train de faire une déclaration Fiordiligi. Donc c'est vrai que ces gens-là sont pas recommandables du tout. Ce sont des racistes, ce sont des affreux personnages. Et la leçon de morale, entre guillemets, enfin en tout cas, ou la leçon de l'école de l'amour qui est censée leur être infligée par Don Alfonso et Despina, évidemment, on n'est plus du tout sur ce registre-là. Toujours est-il que j'ai trouvé que ce carambolage, j'ai envie de dire, de personnages et de la musique, etc., ça marche assez bien, en tout cas, pendant tout le premier acte. Peut-être, on languit un petit peu dans le second, mais dans le premier acte, en tout cas, pour moi, ça marchait. Et je dirais que, finalement, je me suis dit, voilà, il a un propos fort, il le défend, et moi, j'ai pas été frustrée de mon Da Ponte, ni de mon Mozart, parce que dans la fosse, on avait Louis Langrue, qui est quand même un grand mozartien, et qui nous a donné entendre ce Mozart. Je serais plus réservée sur les chanteurs qui, pour moi, sont d'un étiage moyen, alors que, c'est vrai, encore une fois, on va le dire, on le dit tout le temps, mais à Aix, on espère des voix quand même un tout petit peu plus, peut-être, accomplies que celles que nous avons entendues. Voilà pour
cette version.
C'est à découvrir. Aixoise. C'est à découvrir. C'est
donc,
une option.
Qu'on peut voir sur arteconcert.fr.
Est-ce que je peux encore dire une petite chose? Oui, quand même, il a fait de Despina un personnage extraordinaire. Et Sandrine Pio est géniale dans cette. Voilà. J'ai envie de dire, s'il faut le voir, c'est pour Sandrine Pio et pour ce personnage qui est quand même, tout d'un coup, cette soubrette au superlatif de Mozart. Bon, qui là ne sert pas de chocolat du tout parce que je pense qu'il y a assez de noirceur. On n'a pas besoin d'avoir une boisson qui rappelle la couleur des esclaves sur le plateau. Mais toujours est-il que ça devient un personnage assez sulfureux. Voilà une espèce de on peut imaginer une ancienne mondaine déclassée qui vient se refaire une virginité en Afrique et qui, au passage, si elle peut se faire tripoter par quelques beaux mecs bien pourvus, voilà.
Bien, on attendait la suite. Emmanuel Giuliani, cette production mise en scène Christophe Honoré.
Moi, j'ai trouvé ça horrible et idiot.
Très bien.
Pour être nuancé un peu, voilà, pour être dans la finesse.
Si vous avez envie de le dire, dites-le.
Musicalement, très, très médiocre. Alors, comme toujours, tout dépend du soir où on y était. On parlait de l'excellence
d'Emmanuel Haïm.
D'Emmanuel Haïm et du concert d'Astrée. Moi, j'ai trouvé que le Freiburger Baroque Orchestra jouait extrêmement
mal. Qui peut être magnifique.
Des sons éthiques, des cordes, la débandade. Alors, c'était sans doute un soir sans. Mais vraiment, dès l'ouverture, les 13 cordes, etc.
Précisons qu'Emmanuel et moi n'étions pas dans la salle
le même soir. Donc vraiment, je me suis dit, ouille, aïe, aïe, des voix, je suis tout à fait de votre avis, Marie-Aude, à part Sandrine Pio, vraiment totalement insuffisantes, voire qui ne vont plus du tout, comme celle de Rod Gilfry, et Dieu sait que c'est un artiste ce qu'on aime. Et la transposition, je trouve, ne fonctionne absolument pas, parce que Christophe Honoré, qui en effet est très intéressant quand il parle de son spectacle, mais je vous dis, il faut lire le programme, écouter Christophe Honoré, on peut s'arrêter là.
Mais lire l'interview de Marie Audreau dans Le Monde.
Et lire l'interview de Marie Audreau dans Le Monde.
Il dit des choses.
Oui,
il dit des choses.
Et il dit notamment que cette transposition l'intéresse et lui semble nécessaire, parce qu'en tant qu'homme de cinéma, il veut de la vraisemblance, et donc les deux sœurs seraient idiotes de ne pas reconnaître leur fiancé qui reviendrait déguisé de manière sommaire. Mais là, quand on est entouré de vrais noirs, prendre des faux noirs pour de vrais noirs, elles sont encore plus idiotes que idiotes. Donc ça ne marche pas du tout, du tout. Et d'autre part, il dit que c'est le côté solaire et lumineux de cette musique qui lui a donné envie de Sud et d'Afrique. Ça se passe dans la pénombre en permanence. Où est le soleil?
Parce qu'il y a du soleil dehors.
Non, il n'est pas dehors.
On ne voit pas l'extérieur.
Toutes les scènes extérieures sont
oui,
nocturnes.
Oui, on est dans un huis clos, absolument.
On est la nuit.
On ne sort que la nuit dans le Sud.
Voilà.
Les sœurs, elles savent très bien que ce sont pas leurs vrais. Je pense qu'elles se payent une bonne tranche de d'échangisme, c'est tout.
L'arroseur arrosé.
Oui, mais je pense qu'il y a aucune naïveté dans le propos d'Honoré Cirque. Les deux sœurs, c'est vraiment des affreuses.
Des affreux.
Oui, mais si tout le monde est affreux dès le début, dès l'ouverture, et reste affreux pareil avec éternellement, je trouve que ça fonctionne pas du tout, et surtout c'est en hiatus complet avec la musique. Alors si ça avait été bien interprété, peut-être que ça aurait emporté, mais comme c'est vraiment très très médiocre musicalement, non, moi j'ai trouvé que c'était mauvais de chez mauvais.
Bon, j'ai eu la captation sur le site d'Arte, je pencherais plutôt du côté d'Emmanuel Giuliani, mais j'étais pas dans la salle, et on n'aura pas de comparaison musicale avec Salzbourg parce qu'on n'a pas le temps, et que 3 minutes pour parler de la version de Salzbourg C'est déjà pas beaucoup.
C'est dommage parce que Salzbourg, vocalement, c'était très beau.
Ou alors,
sauf,
vous ne dites rien et puis on écoute
l'extrait. Sauf la Fiordiligi, pour moi, qui est insuffisante. Julia Kleiter, qui est plus une Pamina qu'une Fiordiligi, qui n'avait ni les graves, ni les aigus du Comesco Olio. Mais je trouve qu'en l'occurrence, on avait notamment un ténor, Peter Mauro, qui est extraordinaire, vraiment un vrai Ferrando.
Et le, et le directeur du festival de Salzbourg, qui n'hésite pas
à se programmer.
À se programmer trois mises en scène.
Oui, mais
cette
c'est comme
année.
Ça qu'on fait des économies.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà. Il fait même des transcriptions, il traduit Shakespeare aussi.
Une pensée pour Olivier Pie qu'on attaque dès qu'il est mis en scène
au Festival d'Avignon. On est en Autriche.
Là, c'est autre chose. Hein. Voilà. Emmanuel Duaniv, une appréciation parce qu'on va en entendre une bouffée quand même.
Une mise en scène assez insignifiante, mais qui a le mérite d'être dans le flux de la musique. Non, elle est un peu... Et puis, une direction formidable de Ottavio D'Antoni. Vraiment formidable. Et de très belles voix. Je rajouterai aussi le Don Alfonso Carnassier, d'une présence incroyable de Michael Folle. Très belle Dorabella aussi de Angela Brauer. Alors qu'on a une Dorabella chichiteuse à Aix et qui n'est pas dans le style, là, Angela Brauer est formidable. Donc vraiment, ça vaut beaucoup, beaucoup par la musique et une mise en scène qui n'est pas gênante. Ce qui n'est pas formidable de dire ça.
Non.
Mais... Oui, mais à la fin, comme petite trahison, à la fin, quand les deux, quand ils font semblant d'épouser leur légitime pour finalement partir avec leur maîtresse, ça, on peut aussi dire
c'est
pas...
une facilité.
Voilà,
c'est vrai.
Exactement.
C'est
allez,
vrai.
Une bouffée d'un quintet de Cosé pour finir. Voilà quand même un petit parfum de Salzbourg avant de conclure cette émission. Le jeu de la dispute, Lucille Comeau, petit retour d'abord sur le jeu d'hier au soir, car tout le monde attend impatiemment de connaître la réponse. Bien sûr, quelle était la question ?
La question était, le film La Relève de Thierry de Mézières et Alban Terlet est un documentaire sur le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Son premier spectacle s'appelait Triple Duet. Quelle en était la musique ? Et la réponse est un mélange de sonates de Bach pour flûte.
On fait gagner ce soir, ça vous intéresse, les sonates de Bach pour flûte, des places de cinéma pour Rodeo, un film de Gabriel Mascaro qui est sorti hier en scène. Quelle est la question, Lucille ?
Tout simplement, comment s'appellent les rodéos traditionnels du nord du Brésil ?
On sait tous ça, enfin voyons. Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Marie Audreau, Emmanuel Giuliani, Lucille. Comment
d'y avoir préparé
c'est ça, avoir préparé avec moi. Information sur cette émission sur franceculture.fr à la page de la dispute. Il y a également une page spécifique pour le petit salon de Lucille. Comment vous pouvez podcaster, écouter ces émissions, bien sûr, sur ce site internet. Vous pouvez également nous y écrire. Dispute possible grâce à Lucille Comeau, Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinot. Prise de son assurée ce soir par Jean-Louis Deloncle. Réalisation Daniel Finot. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Elisabeth Franck Dumas et Philippe Chevillé. À notre sommaire. Je veux dire sommaire, ça va
je
être plus
dire,
simple.
Quoi.
Je veux dire, non, j'ai envie de dire sommaire. 10h04 de Ben Lerner et brève histoire de 7 meurtres de Marlon James. Nous évoquerons aussi plus rapidement Tabou de Ferdinand von Schirach. L'état où nous sommes, nouvelle du Maine, d'Anne Beattie. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. 22h15, les discussions du soir. Mais dans quelques instants, le journal de la rédaction.